Yes, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous rentrez du travail tranquillement et j'espère que vous allez vous cramponner à votre canapé et vous allez commencer. Écoutez Cheikh Glutamate, il est 17h10, nous avons du retard, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave.
C'est absurde.
Oui, alors aujourd'hui, nous allons toucher quelque chose qui tient à cœur, hein, finalement, à Cheikh Glutamate, quelque chose qui fait partie même de l'esprit, hein, de l'équipe, hein, c'est notre thème aujourd'hui, ça va être l'absurde. Alors j'espère que vous avez passé une agréable semaine sans notre compagnie. En tout cas là maintenant il va falloir nous supporter pendant plus d'une heure. Oui. Oui, et puis je dois vous dire qu'en fait j'étais presque tout seul pendant 10 minutes jusqu'à ce que Victor, tel un valeureux soldat, sorte de son bois pour me sauver. Et j'allais faire cette émission pratiquement tout seul car on n'est que trois. Hein. Il y a Riyad qui est là. Salut Riyad. Hein.
Salut.
Merci Riyad.
Riyad qui est un fervent supporter de l'équipe. D'émission, mais bon, qui n'est pas un chroniqueur, il est là et c'est bien, mais il manque la moitié du monde. On attend donc Sergent Ratpaille, on attend Prof Tob, mais qu'importe, on va, comme vous l'avez entendu, on commence l'émission et c'est comme ça chez Glutamate.
J'ai même envie de dire que c'est pas un supporter, c'est un hooligan.
Ok, d'accord, d'où tu tiens ça? Tu l'as déjà vu dans un stade en train de taper des gens?
Non, je le vois en train de nous supporter ici avec des canettes sur la tête, des petits tubes comme les Américains. Il s'est rasé la tête, il s'est tatoué échec et glutamate sur le front.
Il est en train de mettre des cols en rose avec un maillot avec marqué R dessus. Bref, que de blagues. Allez, on va commencer cette émission musicalement et ça sera avec du local. Ça s'appelle iTone. À tout à l'heure.
Yeah.
The sound
Ah ah, et oui, vous êtes bien avec l'équipe d'Échecs et Glutamate. Donc on vient de s'écouter un petit high tone, le morceau s'appelait The Orientalist, donc tiré de l'album, excellent album Basse Température. Donc voilà, émission qui commence fort. Donc je rappelle que vous êtes bien avec Échecs et Glutamate, l'émission déjantée à l'heure du goûter. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'être absurde, complètement absurde, car le thème, il est là, voilà. C'est notre absurdité qui va régner tout au long de cette émission jusqu'à 18h et des poussières. Mais vous savez que nous sommes une équipe fournie en matériel.
Fou.
Et complètement fou fournie. Et que nous avons beaucoup de reporters disséminés à travers le monde. Et que rien que pour vous, donc, on va vous proposer un reportage. Et quelque chose qui va sûrement vous toucher, en tout cas vous qui fumez. Oui, ce reportage, nous l'avons appelé la guerre du feu. Mais qui achète les briquets? Cette phrase tant entendue, vous la connaissez. T'as pas du feu? Mais c'est mon briquet! Pourquoi les fumeurs sont-ils tous des voleurs? Y a-t-il une économie, une morale de la taxe systématique des briquets? Un sujet brûlant, parfois absurde, une enquête sans concession chez nos amis les Jones.
Jones?
J'ai une journée, deux, puis après plus de briquets, alors j'achète des allumettes. Puis après j'arrive à en trouver, hein, alors je perds mes allumettes. Et après je me fais voler mon briquet, alors je rachète des allumettes.
Je roule chez le mien.
Et ainsi de suite.
Franchement, là, je sais que j'ai un petit big vert, je suis incapable de dire d'où il vient, à qui il est, quoi. Quand est-ce que je l'ai chopé, quoi. J'en sais rien.
J'ai dû acheter seulement, quoi, deux briquets dans toute ma vie. Et pourtant, je fume depuis bien 10 ans, voire plus.
C'est un petit noir.
Là, c'est grand blanc.
Il y a qui grand blanc?
C'est à Meuse maintenant, les grands blancs.
Bah, oui, tous les grands blancs, non.
Je vole à Damien, pour une fois que je vole à Damien.
Je fume pas le matin, donc j'ai pas besoin de feu le matin. Mais j'ai toujours besoin d'avoir du feu chez moi, donc j'ai toujours un truc qui va faire genre une boîte d'allumettes ou une bougie au cas où pour avoir une petite flamme, genre comme les hommes préhistoriques, quoi, faut garder le feu.
C'est pour les briquets.
Est-ce que t'es un voleur de briquets avec tes camarades?
Qu'est-ce qu'on me taxe comme briquet?
Voilà, je le savais.
Voilà, il a besoin de...
Non, parce que lui, je le sais.
Enfin, en fait, je connais pas beaucoup de gens qui achètent des briquets. En fait, je sais pas d'où ils viennent, les briquets.
Malboro, il est là. Et un briquet. Qu'est-ce que vous voulez comme briquet? Vous voulez un joli? C'est le même prix.
Bah,
ouais, allons-y. Merci.
Il y a forcément quelqu'un qui achète des briquets, mais moi, j'en connais pas.
Moi, j'en achète de temps en temps.
Pas moi, j'en achète jamais.
Mais c'est vraiment exceptionnel.
Moi, j'en achète vraiment jamais.
En fait, non.
Par contre, j'en ai souvent.
Quand j'en ai vraiment plus du tout depuis au moins une journée, quoi. Et j'ai pas le choix. Donc là, je me dis, bon, quand même, c'est plus pratique que cette putain de bougie de merde.
Ce qui est sûr, c'est qu'un briquet que j'achète, même si j'achète rarement, il est jamais dans ma poche très longtemps.
C'est là que vient la carotte légale. Au bout de 7 jours, tu peux te dire que c'est légal.
Je le fais pas exprès. C'est une soirée, je vais emprunter du feu, machin, nanan, et puis je vais me déplacer avec. Et puis à un moment, je sais pas quoi faire, donc naturellement, tu fous les trucs dans ta poche. Mmh. Et c'est le lendemain où tu t'aperçois que...
Souvent, je repars avec des briquets, je sais même pas à qui c'est, je m'en suis même pas rendu compte que je l'ai volé.
Bah, c'est naturel, si tu veux survivre, si tu veux garder du feu, de toute façon, t'es obligé de revenir à ça, quoi.
Il n'y a pas vraiment de lieu parfait pour voler un briquet. Je pense que c'est un truc qui est un peu tout terrain, quoi. C'est...
Moi, je pense que je les prends assez consciemment, quoi. Mais enfin, c'est assez naturellement, en fait.
Oui, mais tu le prends dans le but de le...
Non, c'est parce que, parce que je roule un pet, parce que je prends un briquet pour aller une clope et puis je vais filer je sais pas où prendre une bière dans le frigo, par exemple. J'accepte autant qu'il sorte de ma poche que le fait que je le mette dans ma poche, quoi.
C'est briquet commun.
Ouais.
Première théorie, déjà, le sortir le moins possible. Quand tu peux ne pas le sortir, tu le sors pas. C'est-à-dire, s'il y a un briquet sur la table, tu utilises le briquet qui est sur la table. Si tu vois un mec qui a un briquet dans la main, éventuellement, t'en profites pour allumer une cigarette avec son briquet qu'il a déjà pré-sorti, quoi. Voir en profiter, effectivement, pour lui embarquer. Mais ça, c'est pas mon style.
Prends-moi mon feu.
Il y a de sacrés guerriers. Mm.
Mais j'en fais pas partie.
t'as forcément plus de réticence avec des gens que tu connais pas, donc c'est plutôt les proches à qui tu voles des briquets, c'est quand même plus facile, quoi. En plus, ils se méfient moins de toi, donc c'est vachement mieux.
Deuxième méthode pour ne pas perdre son briquet, effectivement, comme dit Fro, le customiser. Donc la petite housse, la petite pocket, la petite griffure, l'élastique autour, enfin peu importe la méthode, le customiser.
Un bon moyen de se faire du briquet, c'est de faire une fête chez soi. Parce que déjà, il y en a une bonne partie que les gens oublient sur place, parce qu'ils laissent traîner le briquet sur la table. Donc toi, après, quand tu ranges ton chez toi, tu récupères tous les briquets.
Quelque chose qui fonctionne bien ?
Ouais, c'est là.
Il y a beaucoup de gaz.
Et voilà. Merci.
Toujours pour éviter de sortir son briquet, moi j'en ai plusieurs. C'est-à-dire que j'ai mon briquet principal qui est customisé, que j'essaye de garder le plus longtemps possible. Et j'en ai un autre dans la voiture, qui est le briquet de la voiture. Donc, ce qui fait que quand je suis dans la voiture, par exemple avec 4 potes qui sont susceptibles d'embrouiller mon briquet, ils vont plutôt prendre celui, ils vont prendre celui de la voiture. Et celui-là, je l'ai vu d'œil, donc dès qu'il n'y est pas, je le sais, je leur demande de le remettre. Pareil, dans la banane pour rouler des spliffs, bon, bah, t'as ton briquet qui est là, spécial pour ça. Ça t'évite de sortir ton briquet principal et de le perdre. Et pareil dans la chambre.
Non, mais c'est pas très grave, quoi. En même temps, si tu fais piquer ton briquet. C'est pas un truc.
C'est que c'est un objet que tu tiens à avoir sur toi parce que c'est forcément pratique à un moment puisque on est des gros fumeurs, quoi.
Technique pour pas le perdre, non, ça, j'ai pas de technique pour pas le perdre, ça c'est infaisable ça.
Et donc quand je perds ce briquet principal, ce qui arrive très rarement mais qui m'est arrivé le week-end dernier, chez un pote, on était 5 autour d'une table en train de faire un jeu de société, j'avais un briquet avec un étui bleu. En demandant à chacun des 4 potes qui sont autour de moi s'ils l'ont pas dans leur poche, ils regardent, je pense avec honnêteté, on retrouve pas le briquet. Mais bon, bref, j'ai perdu mon briquet.
Comment tu peux croire le thé qu'un briquet ? C'est genre le truc où ça pousse le moins à l'honnêteté, quoi.
Et donc, du coup, bah, aujourd'hui, j'ai acheté un briquet.
Le même, mais en rouge.
Mais du coup, par contre, je l'ai pas encore customisé, donc là, j'y fais particulièrement attention ce soir.
T'es obligé de t'en référer à la loi du briquet, qui est le briquet tournant, quoi. Tu peux pas le garder dans ta poche plus de 10 minutes, c'est pas possible.
Ou alors, tu t'achètes un Zippo.
Vous voulez un Zippo tout de suite, c'est plus compliqué, hein. C'est un autre défi, là.
Bah, les gens, généralement, qui ont un Zippo, d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, quand tu leur demandes du feu, il te donne pas le Zippo pour l'allumer, il te l'allume.
Il l'agrémente d'un petit style.
Ouais.
Attends, je t'allume ta clope pas parce que c'est mon briquet et que je tiens à garder, parce que j'ai un truc à te montrer.
Ouais, aussi.
Et voilà, pour le Zippo spécial Zippo.
Tiens, la seule fois où je me suis pris une baigne de ma vie par une meuf, enfin, c'était une guerre de briquets, quoi. Tu te rappelles, enfin, on était ensemble en bus. C'était au lycée, ouais. 17 ans, il y a 10 ans, quoi.
Ouais.
Genre, il entoure le feu complètement avec sa main, on voit pas la couleur, on voit juste la flamme.
Et là, on écarte les dents, on fait mais c'est mon feu ça,
mais
putain.
Non, ouais, c'est Nico qui me l'a filé.
Ah ouais.
Bah, le truc, c'est que pour garder ton briquet, il faut pas que tu le sortes. Ou alors, faut que tu t'en ailles. Alors, moi, je préfère m'en aller. Genre, les voler juste avant que je parte.
Allez, à moi. Et puis, un petit paquet d'allumettes.
Des allumettes ? Ah, ça, j'en achète tout le temps, par contre.
Bon, ça dure moins longtemps, c'est sûr.
C'est mais relou, ça pue.
Tu fais pas chourer. Il y a un mec qui se barre de chez toi avec des allumettes, tu l'entends. Alors que le briquet, tu vois, il peut toujours te dire non, non, je l'ai pas. Tu en trouveras rien. Le mec, il a.
Le problème des allumettes, c'est que quand il y a une fille dans la rue qui te demande du feu et qu'il y a un peu de vent et que tu crames 5 allumettes avant d'allumer sa clope, tu te dis merde, j'aurais dû voler un briquet à mon pote hier, quoi.
Ça se vend, c'est fou. 20 centimes une boîte d'allumettes.
20 centimes.
Nous, on a connu ça à 10 centimes.
Les politiques des cigarettiers ont changé. Avant, ils distribuaient un peu d'allumettes. Maintenant, ils n'en distribuent plus.
Ils en donnent de moins en moins, c'est vrai.
Depuis l'euro, il y a une recrudescence du vol de briquets, je pense qu'on peut dire ça.
Dans le tabac, quand on se fait voler, bien sûr, c'est de la perte sèche.
Ouais. La solution la plus économique, c'est soit d'arrêter de fumer.
1,50, c'est les moins chers. En briquet jetable, je parle. Hein.
Soit de se faire inviter tous les soirs chez quelqu'un pour voler des briquets. Parce qu'inviter des gens, t'es obligé de ranger, de prévoir un minimum à manger, à boire. Donc tu récupères 3 briquets, mais finalement, tu récupères pas ton investissement de départ. Donc le mieux c'est quand même de se faire inviter chez les autres parce qu'en plus tu peux manger gratos et repartir avec des briquets.
La seule chose où on peut pratiquer les prix que l'on veut, une marge à peu près normale, c'est les cartes postales, voilà. Et le petit cadeau. On a une marge normale, quoi. C'est pas.
C'est faire beaucoup.
Faut faire beaucoup d'heures. Sinon c'est pas la peine. Et beaucoup de clients. Sinon c'est pas la peine.
Beaucoup de clients, sinon c'est pas la peine.
T'as ton briquet avant de partir ?
Ouais, j'ai mon briquet.
Fais voir la couleur.
On veut voir, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit le tien. Moi, c'est mon génie. J'ai réussi à taxer ceux des autres toute la soirée, donc ça. J'ai fait ma technique que j'ai expliquée.
Je ne sors jamais mon feu jusqu'au dernier moment.
Et en plus, c'est économique. Peut-être que moi, j'achète un briquet, mais je le garde hyper longtemps.
Quand on lui chauffe un peu à Max, on sait qu'il est plein. T'inquiète.
On ne doit pas avoir beaucoup de briquets qu'on finit nous-mêmes, quoi.
Si, parce que justement, il y a plein de briquets que tu chopes en cours de route, mais les briquets que tu commences et que tu finis, ceux-là, ils sont rares. Ça dure combien de temps un briquet ?
24 heures. Moi, je dirais durée de vie d'un briquet dans une poche, 24 heures.
Non, franchement, il meurt rarement entre mes doigts. Ils tournent vraiment vite, les briquets.
Rien du tout, là. J'étais dégoûté, là.
Ce qui est bien dans le briquet, c'est que c'est un des seuls objets dans notre société qui appartient à personne. Et tout le monde peut posséder le même briquet, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est beau.
Eh oui, c'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau, un briquet. Mais je tiens quand même à défendre les allumettes, hein, qui, dans ce reportage, n'ont pas été franchement été aidées. Quand même, restons dans l'absurde. Je tiens à dire que lorsque vous avez un copain que vous invitez chez vous et qu'il a une envie pressante, on va dire, assez nauséabonde, et que vous passez derrière lui, ben, vaut mieux craquer des allumettes, parfois. Voilà.
Exactement.
Et oui.
Pensons un peu aux marins.
Voilà. Pensons un peu à ça, et ça peut toujours servir, hein. C'est un conseil, voilà, donné, c'est gratuit, c'est échec et glutamate. Allez, on va commencer toujours dans notre thème de l'absurde. Ben, avec une musique absurde, ça s'appelle Je n'aime pas les concombres.
J'aime pas les concombres, les grosses légumes dans l'ombre, et j'ai raison. J'aime pas les gendarmes, en voiture ou en armes, et j'ai encore raison. J'aime pas DSK, pas plus que Georges Tron, et j'ai toujours raison. J'aime pas la sécheresse, je crains la pollution, y'a plus de saison. Je n'aime pas obéir, je refuse de grandir, y'a pas de raison. La vie me donne tort, mais je chanterai encore, sans rime ni raison. La raison du plus fort a eu raison, à tort, dansons à la maison. J'aime pas les concombres, arrêtez. J'aime pas les concombres. Point com.
Je dis, si je tape ma lettre sur une autre machine, on croira que le possesseur de l'autre machine ne taperait pas sa lettre sur sa propre machine. Donc le possesseur de la machine a tapé sa lettre sur sa propre machine. Seulement moi je me dis, il croit que je vais croire que le possesseur d'une machine ne taperait pas la lettre sur sa propre machine. Donc, c'est le possesseur de la machine qui a tapé sa lettre sur sa propre machine, voilà. Pensez que l'enquête serait faite par un imbécile, manque de chance, tombé sur moi.
Manque de chance, on est tombé sur Michel Serrault. Vous êtes bien avec Échec et Glutamate dans l'émission. Donc le thème d'aujourd'hui, donc c'est l'absurde. On a une bonne nouvelle aujourd'hui. Prof Tom n'est toujours pas arrivé, mais Sergent Ratpaille est parmi nous. Salut Sergent.
Ça va bien?
Ça va?
Ça va bien. Je m'entends pas, j'ai pas le casque.
Joli bonnet.
Ouais, c'est vrai que
t'es... C'est ma Dondon qui me l'a offert.
C'est vrai?
Ouais. Big up Dondon, tu nous écoutes.
Un peu psyché le bonnet. Hein.
Ouais.
Ça va.
Un peu absurde, oui.
Allez, on va continuer musicalement avec un groupe que l'on a aimé sur Toulousain, c'est Fabulous Troubadour.
Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit, nous vous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis.
Bonne nuit,
c'est l'heure d'aller au lit, nous vous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis.
Bonne nuit,
c'est l'heure d'aller au lit, nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit.
Si tu te couches à 9h,
tu te lèves de bonne humeur.
Si tu te couches à la 10,
tu rêveras de beaux 10.
Si tu te couches à la 11,
tu te lèves pas des bonnes.
Si tu te couches à minuit,
12 coups c'est le défi. Si tu te couches à la 1,
fais gaffe au rayon de lune.
Si tu te couches à la 2,
tu rêveras à la 2.
Si vous vous couchez à 3,
dans ton lit t'es à l'étroit.
Si tu te couches à la 4,
choisis la chèvre ou le pâtre.
Bonne nuit,
c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis.
Bonne nuit,
c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves,
c'est le cinéma gratuit.
Si tu te couches à 5 heures,
c'est que ton plan traîne en longueur.
Si tu te couches à la 6,
c'est déjà l'heure du pastis.
Si tu te couches à la 7,
c'est que t'es de la jet set.
Si tu te couches à la 8,
t'auras pas un bon coït. Si tu te couches en été,
les vaches sont bien gardées.
Si tu te couches en automne,
les sanglots longs monotones.
Si tu te couches sans te moucher,
t'auras des mouches dans le nez.
Si tu te couches dans l'évier,
tu risques de le boucher.
Bonne nuit, bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis.
Bonne nuit, bonne nuit,
c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit.
Prêcha.
Entretiens-toi avec Bichat.
Si tu dors comme un pacha,
tu rêveras de para.
Si tu dors avec ton chat,
au chat que tu rêveras.
Si tu veux rêver Gaïcha,
commande au téléachat. Si tu te couches tout habillé,
t'auras le falso tout froissé.
Si tu te couches en culotte,
bientôt faudra que tu lottes.
Si tu te couches tout nu,
t'attraperas froid au cul.
Si tu te couches en pyjama,
t'auras le look Serge Lama.
Bonne nuit, bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis.
Bonne nuit, bonne nuit,
c'est l'heure d'aller au lit. Nous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit.
Avec Alice,
tu te couches avec Délice.
Si tu te couches avec Aline,
tu rêveras de Céline.
Si tu te couches avec Céline,
tu rêveras d'Aline.
Et si tu rêves à Paul Amar,
ça s'appelle un cauchemar. Si tu dors sans tes lunettes,
tes rêveries seront pas nettes.
Si tu te couches tout seul,
tu rêveras de tilleul.
Si tu te couches sans ta nana,
jamais tu la reverras.
Et si tu te couches pas,
jamais tu ne rêveras.
Bonne nuit, bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis.
Bonne nuit, bonne nuit,
c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit.
Bonne nuit, bonne nuit,
c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis.
Bonne nuit, bonne nuit,
c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit.
Bonne nuit, bonne nuit,
c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis.
Bonne nuit, bonne nuit,
c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit.
Bonne nuit, bonne nuit,
c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis.
Bonne nuit, bonne nuit,
c'est l'heure d'aller au lit.
Oui, vous êtes bien sur les ondes rebelles Radio Canu. On vient de s'écouter Fabulous Troubadour. J'essaie d'avoir un accent occitan, mais c'est pitoyable.
C'est un duel, c'est un duel.
C'est pitoyable.
C'est pas donné à tout le monde.
Voilà. Donc c'était Ça c'est oui, ça c'est oui, de l'album que je vais retrouver le nom, Duel de Tchatch. Voilà, voilà, voilà. Bonjour Sergent Ratpaille.
Et bonjour
Bonjour amis de Toulouse.
Bonjour
Bonjour.
Eh oui, pour nos amis qui aiment la Batavia. Je vous ai préparé un petit glutin reportage à vous faire pleurer dans les chaumières.
Ah.
Eh oui, c'est un peu triste, mais bon, il y a une petite musique gay derrière qui va être bien.
Ah, d'accord.
Voilà.
Et de quoi va parler ton reportage du coup, monsieur Ratpaille?
Eh ben, comme tous les mercredis, 4h30, enfin, non, 3h30, on va dire, je tape le thème de l'émission dans Google, puis je trouve des sujets. Et là, je tape...
C'est pour ça que t'arrives en retard,
d'ailleurs. Et là, je cherche dans vidéo, et je tombe sur une petite vidéo, ma foi, étonnante. Comment on appelle ça? La chaîne de cette vidéo, c'est sur Vimeo. Donc Vimeo, vous connaissez tous, c'est un site qui héberge comme YouTube des vidéos. Je vais y arriver. Ça s'appelle La Machine à Expulser. Voilà, ils ont 7 vidéos qui parlent donc des expulsions des sans-papiers en France et des centres de rétention et tout. Voilà, il y a plusieurs vidéos. Donc il y a l'accompagnement, l'objectif, la rupture, le système, l'urgence et la violence. Et la dernière que j'ai trouvée en premier, qui s'appelle l'absurde. Voilà, ce qu'on va vous passer, c'est un petit teaser qu'ils ont mis sur leur site, ainsi que l'absurde. Tout en écoutant un morceau de la BO de Berlin Calling.
De notre cher ami Polo.
De notre cher ami Polo. Comment il s'appelle déjà? Karl Brunel. Karl Brunel. Putain, j'arrive jamais à le dire.
Karl Brenner,
voilà. Karl Brenner.
Ouais.
Et le morceau s'appelle Gebrun.
Voilà. En avant.
En avant, Simon. Simon.
La plupart des personnes se font arrêter dans la rue. Il y en a qui se font arrêter chez eux, dans leur mémoire, dans leur lit.
J'ai 2 enfants ici qui sont nés ici en France. Ma femme, elle est enceinte. J'ai une vie familiale. Mon enfant est scolarisé.
La personne est là depuis 15 ans en France. Elle a une vie, elle est mariée, elle a des enfants.
Il y a aujourd'hui en France métropolitaine ou en Outre-mer 25 centres de rétention administrative.
11 d'entre eux sont habilités à enfermer les familles et les enfants.
Bien sûr, j'ai peur comme tout le monde, hein. Je ne dors pas, toute la nuit, je
ne
dors pas.
Il y a régulièrement des départs de feu dans un centre de rétention, il y a régulièrement des grèves de la faim.
En quoi consiste le métier d'intervenant en rétention pour la CIMAD? C'est tous les matins rassembler toutes ses forces et bien se souvenir pourquoi on est là et pour qui.
Ces lieux de privation de liberté de plus en plus sécurisés échappent à notre regard. Des dizaines de milliers de personnes y sont enfermées chaque année en vue d'être expulsées. Leur seul délit est de ne pas avoir de papier.
C'est un mois de ta vie qui t'a été confisqué. Et puis là, on te dit, bah, c'est la fin de rétention. Donc, casse-toi.
La raison qui fait entrer un salarié national dans un centre de rétention, c'est quand même espérer contribuer à la libération des personnes qui sont dedans. Quand on en est à 31 jours et 23 heures, nous aussi on commence à se réjouir et à se dire que la personne va être libérée. Or, parfois, les gens sont pris à la dernière minute et sont mis dans l'avion alors qu'elles se voyaient déjà retrouver leur proche.
Il me semble que j'ai un billet d'avion pour demain, pour être renvoyé au Maroc. Je n'ai aucune idée, une fois que mon heure sera arrivée, comment est-ce que ça se passera. Je ne sais pas comment je vais me diriger à l'aéroport, je ne sais pas comment mes amis vont pouvoir m'amener des affaires en quelque temps. Ça serait un peu ridicule de menoter quelqu'un qui va bien prendre un avion. Ça peut très bien se mettre la famille qui laisse des amis dans l'aéroport ou à bord de l'avion.
Lorsqu'une personne sait qu'il y a un vol de prévu, bon ben là tout se concrétise, tout se matérialise et même. Il arrive très souvent qu'il y ait des personnes qui n'aient pas voulu y croire jusqu'au bout. Non, mais c'est impossible que la France veuille m'expulser. Ou alors ensuite, mais mon pays ne va pas me reconnaître. Ils n'ont pas donné un laissez-passer comme je ne suis pas un criminel. Et lorsqu'il y a cette date d'avion qui est inscrite, bon, ben là, ça devient un peu plus clair.
La personne est là depuis 15 ans en France. Ou voilà, elle a une vie, elle est mariée, elle a des enfants. Ou voir sa femme est sur le point d'accoucher. Ou un demandeur d'asile qui craint fortement d'être reconduit dans son pays parce qu'il sait ce qui l'attend en termes de torture et d'emprisonnement. Donc là, c'est des cas assez médiatisés où les personnes hurlent, se servent de leur corps, utilisent l'énergie du désespoir pour ne pas être expulsés, pour ne pas entrer dans l'avion, pour être sortis de l'avion, pour émouvoir les autres passagers, pour que le pilote de l'avion demande à ce que les policiers sortent la personne.
J'étais un peu traité de quignol, comme quoi je faisais semblant de dire que j'avais des douleurs, alors que c'est ça parce qu'il y avait mon rôle. On m'a quand même ramené à l'aéroport pour prendre l'avion. Quand on embarque les bagages, c'est au moment que tu embarques aussi, quoi. Devant le commandant de bord, j'ai dit que je ne pouvais pas partir parce que vu que j'avais des examens médicaux à faire, j'ai un rein droit qui est atrophié. Le commandant de bord m'a dit c'est mieux qu'il descende. Et les flics m'ont dit si vous ne partez pas la prochaine fois, quelqu'un va vous menotter et puis corser durant tout votre trajet, menotter jusqu'à Brazzaville.
Le simple fait d'être traité de cette façon, ils vont refuser l'avion. Ils vont dire non, je ne vais pas dans ces conditions-là. Je voulais appeler ma femme, je voulais vider mon compte en banque, on me traite comme un chien, c'est non. Et le gars, il fait un refus. Voilà. Ce qui peut se terminer d'ailleurs par une peine d'emprisonnement, puisque refus d'embarquer, c'est puni, quoi. Deuxième solution, on n'a pas réussi à vous reconduire, mais si on n'a pas réussi à vous reconduire, c'est parce qu'en fait, vous avez menti aux autorités consulaires, vous avez dissimulé votre identité. Vous avez fait donc échec à la reconduite à la frontière en ne communiquant pas les renseignements dont on avait besoin. Et on va vous placer en garde à vue, c'est un délit. Il repart exactement dans le même processus. On appelle le procureur de la République, qui en général, très souvent, on va dire dans 95% des cas, poursuit la personne. Et donc la personne est déférée. On passe devant le juge qui va lui mettre en général entre 1 et 3 mois de prison ferme. Et la sortir dans 100% des cas, on va dire pratiquement, d'une interdiction du territoire français.
À la sortie de la maison d'arrêt, la préfecture replace la personne en rétention, donc ça dépend des pratiques en la matière de diverses préfectures, mais certaines n'hésitent pas à faire ce yo-yo, cet retour nauséabond, une dizaine de fois. Donc, Angleterre, votre maison d'arrêt centre de rétention, votre arrêt centre de rétention, comme ça, pendant un an, deux ans, trois ans. J'ai entendu parler de l'histoire d'un géorgien, pendant sept ans, comme ça, il a fait l'aller-retour entre les prisons et les centres de rétention.
Le 2 février 88, quand je me suis arrêté pour une escroquerie à la carte bleue, j'avais une carte de résidence de 10 ans, j'étais en France 30 ans. Tous les gens qui avaient plus de 6 mois et un jour de prison étaient expulsables. Je me suis retrouvé en Algérie, sans connaître personne, ma famille était en France. Je suis revenu clandestinement. Et sur la base du premier arrêté d'expulsion, on m'a réexpulsé, alors que normalement il était caduc. Je suis revenu une seconde fois, donc j'ai été encore attrapé. On m'a ramené en Algérie, d'où je suis reparti une seconde fois pour revoir ma fille et faire connaissance avec ma fille. Et on m'a re-attrapé, on m'a re-ramené, et je suis revenu une troisième fois.
Quelle que soit la situation, on fait du tort à la personne. Parce que l'étranger sans papier n'est pas celui qui est arrivé il y a un an. La moyenne, enfin nous on faisait des statistiques des gens qu'on recevait, je crois que la durée moyenne de présence en France de l'étranger sans papier était de 10 ans. On t'abandonne donc des biens, mais t'abandonne aussi tout un tissu relationnel de travail, d'amis, voire de famille. En fait c'était rarissime qu'il y ait des gens sans famille.
Ça fait presque 10 ans que je suis en France. J'ai des amis, des collègues, de travail, je dois travailler. J'ai une vie quoi. C'est vraiment là-bas, je suis perdu. J'ai rien du tout là-bas.
Il y a l'étranger qui sera mis dans un avion, il y a celui qui ira en prison, il y a celui qui sera libéré. Qu'est-ce qu'on fait quand on est libéré d'un centre de rétention? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a le plus dur derrière soi et qu'enfin on va avoir des papiers? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors il se passe déjà que pendant 7 jours, on a l'assurance de ne pas être replacé en centre de rétention. C'est écrit dans la loi, c'est comme ça. Il n'y a pas de papier à la sortie du centre de rétention. Toutes les personnes qui sortent, qui sont libérées à la fin de ces 32 jours, recommencent, retournent dans la précarité dans laquelle elles se trouvaient avant d'être placées en rétention, d'être arrêtées.
Donc, fin de rétention, ça veut dire remise en liberté provisoire, pour moi. C'est ça que ça veut dire. C'est tout. Ça veut dire qu'on ne te donne rien. Tu te retrouves dans la rue, administrativement, dans la même situation que tu étais avant d'être placé en rétention, avec dans ta valise, juste un truc en plus, c'est le début de ce qui vient de t'arriver, de ce qu'on vient de te faire subir. C'est un mois de ta vie qui t'a été confisqué. Et puis là, on te dit, bah, c'est la fin de rétention. Donc, casse-toi.
Si je tape ma lettre sur une autre machine, on croira que le possesseur de l'autre machine ne taperait pas sa lettre sur sa propre machine. Donc le possesseur de la machine a tapé sa lettre sur sa propre machine. Seulement moi je me dis, il croit que je vais croire que le possesseur d'une machine ne taperait pas la lettre sur sa propre machine. Donc c'est le possesseur de la machine qui a tapé sa lettre sur sa propre machine. Voilà. Pensez que l'enquête serait faite par un imbécile, manque de chance, tombé sur moi.
Manque de chance, vous êtes tombé sur échec et glutamate. Donc, Vous avez pu donc écouter ben voilà un petit florilège de ben, de ce qu'a fait Serge-Jean Rapaille cet après-midi. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Bravo Serge-Jean Rapaille.
Bravo.
Allez, on va continuer cette fois-ci, on va dire un peu plus musicalement, on va être moins dans le reportage avec un album que j'adore qui s'appelle R. Donc c'est R, pardon, l'album s'appelle Love 2. R. Ça fait un peu effet qui se coule. Voilà. Et ce morceau donc s'appelle Missing the Light of the Day.
Yeah.
Yeah.
êtes bien dans l'émission Échec et Glutamate, le rendez-vous donc hebdomadaire sur Radio Canu le 102.2. Comment ça va, messieurs?
Bah, très bien.
Après cette musique un peu space comme ça, on se sent bien, ouais. Ça va bien.
Tranquille.
Tiens, il y a une fidèle auditrice qui nous a rejoint. Bonjour Marie.
Bonjour tout le monde. Je ne suis pas un messieurs, je précise.
Ouais. Voilà, ce qui est rare dans cette émission, qu'on soit accompagné par des femmes.
Exactement.
Et c'est vrai, ça. Et quelle femme d'ailleurs, je dois le dire.
Merci.
Pourquoi tout le monde me regarde en rigolant, monde de salauds, ouais. Et Sergent Rappel, donc, qui regagne sa chaise. Sergent.
Alors, j'ai été dégradé, maintenant je m'appelle Engagé Ratpaille.
En Engagé Ratpaille. Deuxième pont Ratpaille. Deuxième pont Ratpaille.
Ouais. J'ai eu 15 blâmes, et puis quand t'as 15 blâmes, t'as. C'était quoi déjà?
T'as une image?
T'as une image, ouais. Et voilà. Puis après, quand t'as 4 images, t'es dégradé. Voilà.
D'accord.
Dégradé. Colonel.
Allez, on va continuer avec un petit délire sonore, donc concocté par mes soins. Oui, comme vous le savez, George Bush utilisait la torture dans sa guerre absurde contre le terrorisme. Même si c'est interdit, même si ça ne sert à rien. Oui, comme vous le savez, les torturés, en général, disent n'importe quoi pour que ça s'arrête. Hein. Ça, c'est bien connu. Bon. Démonstration avec quelques instants de torture sonore. Accrochez-vous, auditeurs.
Un bon gros Larsen. Les ongles sur le tableau noir. Les travaux dans la rue. Un caprice de la petite dernière. Un robinet mal fermé. Qui goûte. Qui goûte. Qui goûte. Le bruit du chewing-gum qu'on mâche pendant des heures. Un discours de Philippe Douste-Blazy.
Qui seuls ont mené les discussions et qui sont parvenus à un accord.
Une poulie qui grince. Un vieux morceau de country. C'était notre cadeau à George Bush. Quelques idées de torture sonore et légale.
And helping to defend the civilized world.
Sticking to your mind. When you're trying, do your best.
got to, we want to shine it on. We want to, we got to, we want to shine it on.
Et oui, ça groove, ça funk sur Radio Canu, le 102.2.
Oh yeah.
Vous êtes toujours avec Échec et Glutamate, bien sûr. Évidemment, on est mercredi, je vous le rappelle, c'est l'émission déjantée à l'heure du goûter. Ah, qu'est-ce qu'on est bien sur Radio Canu. Oui, oui. Et sachez que l'amour porté par Échec et Glutamate pour la radio et ses auditeurs, et vous, cher petit auditeur, n'est rien comparé à l'amour que notre équipe a pour l'absurde. Oui, je vous rappelle que c'est le thème d'aujourd'hui. Oui, ce thème fait sans doute, fait sens, surtout si vous écoutez Échec et Glutamate depuis une dizaine d'années maintenant. Maintenant, vous êtes un vrai glutamec, il faut le dire, hein. Comme Monsieur Lassu, comme le deuxième pont rat de paille. Pardon, pas Monsieur Lassu, lieutenant Lassu. Alors maintenant, c'est Monsieur, c'est change des titres, on va savoir.
J'étais civil, maintenant je prends les armes.
J'ai toujours pas compris pourquoi il voulait s'appeler sergent, lieutenant. Bref, quand je continue dans mon texte, je me suis un peu égaré. Mais ceci n'est rien comparé au débriefing que nous organisons après chaque émission. La semaine dernière, nous nous sommes retrouvés à engloutir des fromages Mondor que votre cher chroniqueur, j'allais dire monsieur Lassu, mais lieutenant Lassu, avait soigneusement volé, puis embrasé, répandant une odeur répugnante dans tout le 4e arrondissement.
C'était un acte terroriste.
C'est vrai que ça a pué grave. Autre exemple, et pas des moindres. La nuit dernière, j'ai dîné en tête-à-tête avec notre ancien chroniqueur, Capitaine Beefsteak. Dommage. Eh oui, dommage que Prof Tom ne soit pas là. Oui, ce cher Capitaine Beefsteak qui n'avait pas quitté sa fragante tenue d'ambulancier dans un restaurant pas choisi au hasard, car tenu par une bienveillante équipe d'homosexuels. Je vous laisse imaginer l'ambiance très village people du lieu, surtout avec un mec en face de vous. Voilà, imaginez un peu l'ambiance. Bref. Bon, voilà, dès comme ça, j'en ai à l'appel. Je vais tout de même laisser du temps d'antenne au glutamec et surtout au lieutenant nommé monsieur.
Non.
Lieutenant Lassu, je vais y arriver.
Au rapport.
Mais promis, la semaine prochaine, je vous raconterai comment Prof Tob et moi, grands amateurs de golf, aimons peaufiner notre swing au parc de la Tête d'Or. Allez, salut. Voilà,
hey,
c'est funky, hey, ça swing, okay, c'est Radio Canu, c'est l'équipe Échec et Glutamate, en pleine absurde, hein, une émission absurdissante, hein, quand même.
Eh oui.
Dommage qu'il n'y ait pas Tobia pour relever ce jeu de mots pourris.
C'est vrai.
Ouais. Au moins, lui aurait bien rigolé.
Aux éclats.
Voilà.
Il aurait fait pire.
Voilà. Oui, il aurait fait pire, oui, effectivement. Tu es mauvaise langue, Marie. Mauvaise
non,
langue.
Non, très lucide.
Oh.
Fidèle auditrice.
Marie, attention, tu vas plus revenir hein, si tu continues comme ça. Hein. Ça suffit maintenant.
Mais c'est la
de pourrir de pourrir des gens qui sont absents. Tu n'as
je
pas le droit de faire
pas.
Ça. Oh,
je
Marie.
Ne pourris pas, c'est que j'apprécie, c'est tout.
D'accord. Tu apprécies, mais en critiquant, ok. Bon, deuxième pour rat de paille, et tu as un superbe morceau à nous proposer, il me semble.
Eh oui, on va profiter de la chance qu'on puisse dégouliner sur l'heure d'après pour moi, je vais profiter pour vous proposer un petit morceau, toujours du même album que vous avez écouté tout à l'heure, hein, Berlin Calling de Paul Kalkbrenner. Je vais y arriver. Et ce morceau s'appelle Altesse Camoufle.
dégouliner comme un mont d'or, hein, je tiens à dire.
Sans le dire.
Allez, à tout à l'heure.
Attention. Oh. Sens, ça, hein,
ah, ça oui. Alors, ça, Ça, ça ressemble du pâté finlandais, ça.
Ah oui, du pâté belge même.
C'est clair.
Le bel album qu'on a reçu cette semaine avec le Père Sims, là, putain, on se fait rêver, là. Hein. 11 euros sur Internet, là, putain, c'est que du bonheur en barre. Hein. Bref, non, je tenais juste à vous dire, avant qu'on enchaîne sur Sergent, Lieutenant Calu, Lieutenant... Lassu, merci. Que je vous ai parlé de l'album donc de Paul Kalkbrenner, Berlin Calling, mais qui est au fait, en fait, la BO d'un film du même nom, Berlin Calling, qui fracasse sa mémé.
Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je dis ça parce que je l'ai pas vu. C'est vrai.
Mais je l'ai récupéré hier soir, je peux te le donner.
Ah, oui. Ce soir, je sens que je vais me faire un petit film.
Si tu viens boire un coup à la maison.
Ah, bah écoute, peut-être deux fois qu'une, hein, entre nous.
Chacha, on arrive.
On arrive, allez, Chacha, on arrive. Et dis donc, il me semble, j'entends un écho lointain, mais ça ne serait pas la chronique du lieutenant Lassu.
Du lieutenant Lassu, elle arrive, je crois. Elle arrive.
Elle arrive.
Vous êtes bien sur la première plateforme de la Tour Eiffel. Tiens, une autruche. Elle traverse la Seine. Elle sort. Voici le chasseur. Il cherche l'autruche. Il lève la tête. Il voit quelque chose. Il épaule. Il tire. Ciel. Une dépêche. La détonation réveille le directeur de la Tour Eiffel. Ah ça monsieur, vous croyez donc à la chasse? Je poursuivais une autruche, je l'ai cru prise dans les mailles de la Tour Eiffel, et vous me tuez, une dépêche, je ne l'ai pas fait exprès. Fin du dialogue. Voici le photographe de la Tour Eiffel, il parle. Que dit-il? Vous n'auriez pas vu une autruche? Si, je la cherche. Figurez-vous que mon appareil de photographie est détraqué. D'habitude, quand je dis ne bougeons plus, un petit oiseau va sortir, c'est un petit oiseau qui sort. Ce matin, je dis à une dame, un petit oiseau va sortir, et il sort une autruche. Je cherche l'autruche pour la faire rentrer dans l'appareil. Mesdames, messieurs, la scène se corse, car le directeur de la Tour Eiffel s'aperçoit soudain que la dépêche portait son adresse. Il ouvre. Directeur, Tour Eiffel, viendront, noces, déjeuner, prier, retenir, table. Mais cette dépêche est morte.
Jukebox, jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukes.
Je me réveille, tête dans le pâté. J'ai rêvé à quelque chose. Voilà, il y avait une tour Eiffel, une autruche. Le matin, irlandais que je suis, Sid que j'ai lu, je me balade à cheval maintenant dans mon appartement à cheval. Quoi, moi, dadaïste, j'avais la blague sur le bout de la langue, plutôt sur le bout des doigts.
Box, juke, box, juke, box. Je claque des doigts devant le jukebox.
Je descends maintenant à l'escalier, la gueule de bois, la gueule dans le cul. Je traverse le hall et je suis prêt à me prendre la claque de la journée.
Jukebox, jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox.
En sortant pour aller chercher petits croissants et petits bains au beurre, je croise un homme dans la rue. Il s'approche, la rue est embrumée. Il a quelque chose dans la main, quelque chose de brillant, quelque chose qui claque.
Box, juke, box, juke, box. Je claque des doigts devant le jukebox.
Et non, c'était pas un truc qui claque, merde, c'était un couteau et le couteau. Merde, le couteau maintenant je l'ai dans le flanc, il vient de me planter. Je crois que je vais claquer.
Quand il ne se balade pas sur toi, je ne sais que faire de mes 10 doigts. Je ne sais que faire de mes 10 doigts. Alors je vais...
Putain, je suis pas mort. Je me relève à l'hôpital. La police vient me voir. Ils me disent, vous voulez voir la personne qui vous a fait ça? Alors, bien sûr, je les vois. Bien sûr, je les vois. Ils m'emmènent et je vais voir ce type... Je vais voir ce type et ce type, je lui dis pourquoi vous m'avez fait ça. Et ce type, il me regarde, il est bahi, il me dit je sais pas, et de sa bouche, bizarrement, on dirait qu'il capte une radio de son crâne, on entend quelque chose, merde, c'est quoi ce truc?
Good. Morning Lion.
Et ouais, c'est le retour de Tom Waits. Alors, Prévert, quoi, Picasso? Sur une assiette bien ronde en porcelaine réelle, une pomme pose face à face avec elle, un peintre de la réalité et ses vêtements de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais elle ne se laisse pas faire la pomme, elle a son mot à dire et plusieurs tours dans son sac de pommes, la pomme. Et la voilà qui tourne dans son assiette réelle, sournoisement sur elle-même, doucement sans bouger. Et comme un duc de Guise qui se déguise en bec de jazz, parce qu'on veut lui tirer le portrait malgré elle, la pomme se déguise en beau fruit déguisé. Et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui. Et comme le malheureux indigent, comme le pauvre nécessiteux qui se trouve soudain à la merci de n'importe quelle association bienfaisante de charité et de redoutabilité, de bienfaisance et de charité et de redoutabilité, le malheureux peintre de la réalité se trouve soudain être la triste proie d'une innombrable foule d'associations d'idées. Et la pomme, en tournant, évoque le pommier, le paradis terrestre, et Ève, et puis Adam, et l'arrosoir, l'espalier, et parmentier, et l'escalier, et le Canada, et les Hespérides, et la Normandie, et la Rainette, et la Pie, et le serpent du jeu de paume, et le serment du jeu de pomme, et le péché originel, et les origines de l'art, et la Suisse, et Guillaume Tell, et même Isaac Newton, et plusieurs fois primé à l'exposition universelle de la gravitation universelle. Et le peintre, étourdi, perd de vue son modèle, et s'endort. C'est alors que Picasso, qui passait par là comme il passe partout, chaque jour comme chez lui, voit la pomme et l'assiette et le peintre endormi. Quelle idée de peindre une pomme, dit Picasso. Et Picasso mange la pomme et la pomme lui dit merci. Et Picasso casse l'assiette et il s'en va en souriant. Et le peintre, arraché à ses songes comme une dent, se retrouve tout seul devant sa pomme inachevée. Avec au beau milieu de la vaisselle brisée, les terribles pépins de la réalité.
Je vais jouer du violon de zigane. Zigane se joue sans veste. C'est mon oncle qui m'a dit le violon, ou on joue juste ou on joue Zigane. Je n'avais pas le choix. Moi, je joue Zigane. Il y en a qui prétendent que le violon ne supporte pas la médiocrité. C'est faux. Le violon supporte la médiocrité. C'est ceux qui écoutent qui le supportent. Du bobo Léon, il porte un bandeau Léon, il a du bobo Léon, oh pauvre Léon. D'abord il s'appelle pas Léon, mais je me souviens plus de son nom, je peux pourtant pas l'appeler Hortense, et puis ça n'a pas d'importance. Il a du bobo Léon, il va peut-être canner Léon. Il a du bobo Léon, oh pauvre Léon. On l'a mené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part et il est mort. S'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise.
une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais ce n'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était d'Antibes, quelle avanie. Avanie et framboise sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas, est-ce plus loin que Pézenas? Je ne sais pas. Et tout en étant française, était tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt pour qu'elle avanie. Avanie et framboise sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages pour en avoir davantage. Elle s'en fit rajouter à l'Institut de beauté. Ha ha ha. On peut dans le Maine-et-Loire s'offrir de beaux seins en poire. Il y a un institut d'Angers qui opère sans danger, des plus jeunes aux plus âgés. On peut presque tout changer, excepté ce qu'on ne peut pas. Quelle avanie, avanie et framboise sont les mamelles du destin. Davantage, davantage, avantage, davantage. Lui dis-je quand elle revint avec ses seins en jevin, 2 x 10. Permets donc que je lutine cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré, et je n'ai pas couru après. Je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. Moralité, avanie et mamelle sont les framboises du destin.
Merci Bobby.
Merci Bobby. Ben,
merci.
Dankeschön.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Bah, il est temps de parler de. On a plein de choses à dire finalement, parce qu'on va, pas trop tarder à se quitter. C'est vrai qu'on a, comme disait tout à l'heure Monsieur Ratpaille, alias Deuxième Pont, alias le rat, alias la tarte, alias le rat crevé. Nous avons largement dégouliné hein, sur le leurre donc de qui est donc normalement dédié à Kipon, mais on a eu une quantité ultra. Enfin. Voilà, c'était, on a fait tout à l'heure, Victor l'a fait un truc hyper riche. Voilà, et Victor avait besoin d'en parler. Monsieur Victor.
Alors, donc, juste pour dire à peu près mes sources. Donc, le premier texte venait, donc, de Jean Cocteau. C'était les Mariés de la Tour Eiffel, qui était, à la base, donc, une danse chorégraphiée avec 20 personnes, qui a suivi, donc, sur un petit texte de ma part, qui s'est terminé sur, Promenade de Picasso de Jacques Prévert. Et pour la petite anecdote, donc, mon petit texte était sur, Samuel Beckett, le pourquoi est-ce qu'il s'est mis à écrire de l'absurde.
Bien sûr.
Selon la légende, c'est qu'un jour en descendant de chez lui, en allant juste acheter du pain, il s'est fait poignarder par un type et il a survécu. Il est allé voir cet homme, il lui a dit pourquoi est-ce que vous avez fait ça. Il ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam et cet homme lui a dit je ne sais pas. Et à partir de là, il a commencé à remettre en question toute la folie, le côté absurde de la vie et le pourquoi du comment est-ce qu'on peut aller dans des excès aussi absurdes.
Bien sûr.
Voilà.
Dingue. Et puis, bah tiens, je vais laisser Lieutenant Ratpaille en parler parce qu'on a.
Engagé Ratpaille.
Engagé Ratpaille, pardon.
J'ai été dégradé, je le répète.
C'est pas
de ma faute, c'est toi le général, mec.
Tu sais qu'à Radio Canyon, on a envie d'être d'assassiner l'armée. Vous commencez à nous faire chier vos grades à la con.
Que dites-vous, capitaine? Capitaine ou capitaine, merde!
Ça commence à être pénible. Mais on a un super truc qu'on avait réalisé il y a, on va dire, une trentaine d'émissions en arrière.
Je peux le dire.
Voilà. Et que Engagé Ratpaille va vous expliquer tout de suite.
Et voilà, et donc pour un des derniers petits morceaux de cette émission sur l'absurde, on va vous faire un petit playback d'une émission, une des premières émissions à laquelle j'ai participé. C'était l'émission Herbe d'Alpage il y a un peu plus d'un an. Et Herbe d'Alpage, j'avais invité une personne, un extraterrestre,
ah oui,
à apparence humaine,
c'est que
j'avais rencontré à la Part-Dieu à 5h du mat après un café. Et le gars était tellement fou qu'il nous avait inspiré le thème de cette émission, Herbe d'Alpage. Voilà, c'était il y a un an.
Il y a un an, allez, en route, moteur. Yes, de retour sur Radio Canu, les ondes rebelles, le 102.2. Voilà, donc on a rencontré une multitude de problèmes techniques.
Capote.
Nous avons des à cause de saboteurs dénommés Prof Tob et Captain Giftek.
Bref, c'est le bordel, on va enchaîner, vas-y, enchaîne juste, coupe ton son et voilà quoi.
Il n'y a pas de micro en plus, c'est ça.
Voilà. Bon, bah, re-salut à vous, désolé pour la technique et surtout désolé pour le son pourri. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a un petit micro qui est sur mes enceintes du PC pour faire genre, y a un micro quoi.
Technologie
quoi. Bref, donc re-salut à vous, je me représente, Sergent Ratpack qui vous cause. Bon, je vais vous dire que, faut vous dire hein, que bah, le thème de cette émission, il est directement inspiré par un genre d'énergumène que j'ai rencontré il y a environ 3 semaines à la Part-Dieu, après une bonne crise de somnambulise aiguë et l'envie folle d'un café de bistrot à 5h du mat. Bref, après mon petit café, donc, vers 6h, je vois un type, genre déguisé en tyrolien, et j'ai dit, tu serais pas polonais, toi? Et je sais pas qui c'est qui me répond, ça va pas ou bien? Je suis suisse et je vends des herbes d'alpage. Bref, alors moi, et attends, non, et en moins de 10 minutes, le type, il me fait un speech et il me fait comprendre qu'il est à la fois herboriste, musicien, chaman, artiste peintre et astronaute. Non mais attendez, non, c'est sérieux, il est astronaute le type. Je vais vous lire la petite plaquette.
Promoteur
aérospatial, c'est pas mal non plus quoi, bref. Et je vais vous lire la petite plaquette qu'il m'a donnée à son sujet. Et il me dit, t'inquiète si tu comprends pas mec, c'est traduit en 26 langues. Alors, Bechkai et gloire au Warjoul premier. Salut, enfant de l'humanité. Toi, le Bechka du Bechkai, le Warjoul premier te vend ses épices. Pardon. Elles sont bonnes à consommer en infusion. Va sur le net et tape Bechkai. Ainsi, tu découvriras l'univers du Warjoul premier. Je vous permets de rire, mais c'est hyper sérieux tout ça. Hein. Bref, une petite théière, un petit sachet d'herbe sauvage, le pâtre Warjoul premier, un petit peu d'eau chaude, et on arrange tous ces problèmes en buvant ensemble des herbes de montagne, le pâtre Warjoul premier.
Il faut que tu parles au micro.
Bah, je fais ce que je peux. Hein. Ensemble, on change. Bref, ensemble, on chante aux cieux, peuple du monde. Peuple du monde, serrez-vous la main et gloire au Warjoul premier, gloire. Alors enfants de l'humanité, achète et consomme les herbes sauvages de pâtre Warjoul premier pour l'avenir et le futur du face aérospatial et pour que le Bechka puisse ainsi vivre le Bechkai de l'humanité. Bravo.
Ainsi soit-il.
Bref, alors je vous présente le Warjoul premier aka Julien Weber. Alors Julien, qui es-tu et d'où viens-tu, mec?
Alors moi, je suis artisan cueilleur de montagne et je ramasse des épices traditionnelles de montagne. Mon nom, c'est Julien Weber, né à Montreux le 15 novembre 1979, alias le Boris Jules Ier ou le Saint Lascar.
Alors attends. Le Boris Jules Ier, dis-moi, tu serais pas un petit peu royaliste ou mégalo? Explique-nous, qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Oui, je sais pas si c'est de la mégalomanie, mais j'ai déjà ramassé une tonne d'épices de montagne, donc je peux quand même proclamer une certaine royalité sur le sujet. Ensuite, les épices, on les met dans tout, dans le fromage. Donc, moi, je suis partout, hein, dans le fromage, dans partout. On met mes épices. Des épices, ça passe partout, tandis que le reste pas. Donc, moi, c'est une forme de royalité dans les traditions.
Ok. Très bien. Bon, alors, du coup, tu peux me décrire, genre, brièvement, ton entreprise ambulante, le pâtre.
Bon, moi, je ramasse des herbes de montagne traditionnelles dans les alpages en Suisse. Bon, maintenant, je vais gentiment dans la forêt de Miribel où j'ai trouvé des nouvelles épices et moi je ramasse mes épices dans les montagnes pour les vendre aux gens parce que c'est un produit naturel sauvage et c'est un business qui existait déjà à la préhistoire aux casses de Thulé et moi je fais ça parce que c'est bien de faire ça et parce que c'est une solution pour moi dans ma vie parce que ça m'apporte tout et au même temps c'est aussi une solution que j'essaie d'apporter aux gens pour par exemple lutter contre le chômage à partir d'une matière première qui est à la disposition de tout le monde.
Yes, super. Alors, excuse-moi, je reprends la plaquette que tu m'as filée. Salut, enfant de l'humanité, toi, le Bechka du Bechkai. Alors, c'est quoi le Bechka? Enfin non, c'est quoi le Bechkai et qui sont donc les Bechka?
Bah, au tout début, le Bechkai, ça date de très très longtemps en arrière, de millénaires en arrière. On chantait le Bechkai dans l'écho des montagnes. Et c'était pour savoir si le voisin, il était pas raide. Et le voisin répondait dans l'écho, dans les montagnes, des Bechka Beya Beo. Puis ça résonne dans la montagne. Et moi, j'ai moderniser la chose pour communiquer avec les autres gens de l'humanité par l'informatique. Et moi, je chante le Batchkai de mon ordinateur et il y a des gens en Afrique qui me répondent quelque chose. Par exemple, ceux du projet Troposphère et plein de gens comme ça je peux rencontrer à plus grande échelle du Batchkai moderne à plus grande échelle. Et yes. Le Batchkai, c'est celui qui pratique le Batchkai. Par exemple, les gens en islam qui sont dans les tourelles et qui chantent tout le temps, ils ont le même principe du Batchkai. Donc pour moi, pour ma doctrine occidentale, eux, c'est des Batchkai.
D'accord, yes, on comprend mieux. Donc, alors, le truc le plus fou, explique-moi ce que c'est que le FASS, ou FASS, je sais pas comment tu prononces, c'est le FASS.
FASS, Fenger Aérospatial Suisse.
Voilà, bon. Alors, qu'est-ce que c'est que le FASS aérospatial, mec?
C'est un pré-projet d'une entreprise aérospatiale pour faire l'aérospatial dans l'aérospatial avec la construction d'une ville à partir d'une usine lunaire qui s'appellerait la Halle Céleste. Et je suis à la recherche de gens qui ont un intérêt dans ma démarche que j'ai mis auprès de la CCI, auprès du Registre du Commerce Suisse trouver des fonds nécessaires à amener une équipe, trois équipes de 8 personnes, des commandos ouvriers, afin de développer la fabrication de cette Halle Céleste qui serait une usine pour le traitement de la matière première, etc., etc. Et je cherche des gens de toutes sortes. Par exemple, je serais très intéressé d'avoir un commando africain sur le troposphère et aussi, par exemple, des militants de la Légion étrangère ou Corse qui m'intéressent également sur ce merveilleux projet. Et fantastique.
Ok, c'est bien plein de folie tout ça. Si vous voulez plus d'infos donc sur l'entreprise Lepad pour vos petites herbes d'alpage, vous pouvez. Est-ce que tu veux que je fasse de la pub? Tu veux que je donne quoi? Un mail? Un
oui,
téléphone?
Oui, toujours m'écrire sur ma boîte mail. @yahoo.fr ou bien on tape en Batchkai et quand on écrit sur ma boîte mail, normalement si ça fonctionne, parce que le diable il a mis l'ordinateur sur terre, alors des fois ça fonctionne pas après normalement automatiquement le formulaire arrive sur votre boîte mail.
Yes. Je répète le mail c'est super simple, c'est maître des runes@yahoo.fr. Maître des runes, maître des runes avec un S à la fin. Voilà.
Julien, par contre, moi, tu m'as fait rêver. Fais-nous une démonstration pour les auditeurs. Je pense qu'ils vont être vachement intéressés de Batchkai, par exemple. Comment vous.
Eh ben, oui. Justement,
par exemple.
Ah. Excuse-moi, je proposais en fait quelques morceaux, de faire un petit mix dans le temps qui nous reste des morceaux de Julien, dont une poésie. Voilà, quelques petits morceaux pour qu'on écoute. Tu peux toujours, tu laisses les micros branchés, tu peux toujours improviser par-dessus si ça l'envie t'en dit.
C'est de la musique où on entend la montagne, donc si un inspiration du moment, donc on peut pas transformer, on peut pas refaire. Qu'est-ce que je fais tellement voilà. C'est beau et merveilleux. Et si un instant, c'est l'explication d'un instant.
Okay. Julien, t'es chez Père, mais je kiffe.
Alors, je sais pas dans quel ordre parce qu'elles sont longues les chansons, donc je vais mixer un peu Batchkai poésie, Batchkai de la soupe aux herbes de montagne, Batchkai de l'aérospatiale et Batchkai il faut tuer l'ennemi. Alors, je sais pas dans quel ordre je vais le faire, je vais un peu improviser, mais de toute façon, si vous tapez Batchkai BETSHKAIL sur le net, sur Google, et ben vous pouvez récupérer. Il y a tout qui est dispo. Il a fait des centaines de vidéos. N'ayez pas peur. Pas fou, enfin si mais pas trop
le fou a tout perdu sauf la raison,
voilà, tout à fait. Donc il y a plein de vidéos dispo de lui, il y a plein de sons, plein de trucs écrits, enfin bref c'est le bordel.
Il faut insister un petit peu,
faut
des
insister
fois
un
parce
petit
que
peu, mais
des fois il y a des nouvelles poches qui sortent et puis des fois c'est un peu de la merde quand même.
Bon, explorez tout ça, régalez-vous,
écoutez ça, ça vient.
Yeah, Batchkai.
Thank you. Alors j'enchaîne juste, il nous reste 2 minutes quand même, sur un petit morceau qui s'appelle, qui est beaucoup plus tranquille, hein, qui s'appelle La soupe aux herbes de montagne. Je vais essayer de pas le mettre au mauvais endroit. Voilà, désolé, hein, je suis obligé de couper, désolé Julien, mais on a vraiment pas beaucoup de temps. Quoi.
Alors il nous reste 1 minute d'antenne. Donc j'aimerais raconter, c'est assez sympathique, le thème de la prochaine émission, on le fait souvent à l'arrache et tout, mais là...
Oui, voilà, on a été pris dans la mouvance Julien Weber, on est resté bloqué.
Le Vorigile premier.
Voilà, on est resté bloqué comme lui. Voilà, en fait, évidemment, on a tenu énormément à vous passer cet extrait donc de ce mec qu'on avait interviewé il y a un an en arrière, un mec complètement barré, totalement absurde, en lien avec le thème d'aujourd'hui, et voilà, ça a dépoté pas mal. Et tiens, il y a deuxième pont, Ratpaï, qui voulait ajouter quelque chose peut-être.
Ouais, non, je voulais juste, on va peut-être y aller là parce que ça va être l'heure. Hein.
Oui, bien sûr. Ouais,
on va peut-être enchaîner sur le thème de l'émission. Puis je voulais juste dire que je voulais juste introduire éventuellement une future émission, si tu nous écoutes ou pas. Nous allons peut-être faire une émission spéciale ODN, les oiseaux de nuit.
Oui, oui, ceux qui ont parcouru.
Peut-être, qui sait, un interview de Gloomout, et peut-être, si vraiment il a la gentillesse de venir nous rejoindre, parce qu'il étudie sur Lyon en ce moment, un DJ fantastique qu'on a vu plusieurs fois avec Simon, et qui nous fait rêver. Enfin, tout leur crew nous fait rêver. Donc voilà, si tu nous entends, on attend l'interview de toi. Et on peut même faire une émission spéciale toi.
Il y a grave moyen.
J'aime bien, ça fait un peu Jésus revient, Jésus revient.
Gloomout, si tu nous écoutes, nous t'attendons. Voilà, c'était tout.
Pour le petit côté agenda, donc pour faire un peu sa propre pub. Donc si vous aimez mes textes, si vous aimez mon ambiance, du 15 au 18 décembre au Théâtre des Voraces, donc c'est juste en dessous de la Fourmi Rouge dans la Traboule. Donc il y a une pièce de la compagnie de théâtre qui est affiliée à Échec et Glutamate. Donc on vous attend, donc du 15 au 18 septembre, je vous en parle même pas, c'est une surprise. Il faut venir, c'est complètement déjanté, barré, musique, son, théâtre. À très bientôt.
On y sera, c'est sûr.
J'espère bien, ouais.
Bien sûr, on y sera. Alors, quant à nous, chers auditeurs, nous devons nous retrouver la semaine prochaine. J'espère que vous serez au rendez-vous, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on va vous proposer comme thème? Un thème qui fait beaucoup polémique, surtout après tant de débats, la note, la dégradation de la France, qui s'est, en termes de liberté de la presse, a dégringolé à la 40e place. Nous allons parler de la censure. Et oui. Bien sûr, quand vous pensez que la France est passée juste derrière le Gabon, il me semble, ou le Ghana, un pays africain, cela fait peur. Cela fait
l'autre.
Non mais cela fait peur. Mais voilà, retrouvons-nous donc la semaine prochaine pour la censure. Messieurs, je vous dis donc à bientôt.
C'est à la semaine prochaine.
Rendez-vous pour le Beaujolais nouveau, bien sûr.
Plutôt deux fois qu'une.
Là j'étais sûr que ça allait leur plaire si c'était cette phrase pourrie. Voilà. Bon.
Tu sais à qui parler, tu sais à qui parler.
Bien sûr. Donc rendez-vous pour la censure. Et surtout n'oubliez pas qui vous êtes. Rebellez-vous. Allez, ciao.
Yo.
Salut.